L'invité du grand entretien ce matin est écrivain. Il dirige l'ouvrage collectif Portrait d'un monde cassé, l'Europe dans l'année des grandes élections chez Gallimard. Le livre sera en librairie après-demain. Vous pourrez dialoguer avec lui au 01 45 24 7000 et sur l'application de France Inter. Giuliano Daumpoli, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à ce micro. Je rappelle que vous êtes l'auteur du Mage du Kremlin, best-seller sur le pouvoir russe écrit avant même la guerre en Ukraine, et que votre précédent livre, Les ingénieurs du chaos, essai sur les populistes, est lui aussi devenu un phénomène d'édition et, j'ajoute, une lecture de référence pour les politiques de tous bords. On va parler ce matin de ce livre collectif que vous préfacez et dirigez, Portrait d'un monde cassé, l'Europe dans l'année des grandes élections. Il s'agit de la version livre de plusieurs article de la revue de référence en ligne Le Grand Continent. Parmi les contributeurs, Josep Borrell, en charge de la diplomatie européenne, l'homme politique belge Paul Magnette, l'écrivain espagnol Javier Cercas, le politologue Hugo Micheron, l'ingénieur Jean-Marc Jancovici, l'économiste Julia Cagé et beaucoup d'autres. Mais pour commencer, un mot sur ce titre, un monde cassé, cassé par qui, cassé par quoi ?
Écoutez, je pense que la chronique de Pierre Iraski que nous venons d'écouter est en effet une très bonne introduction par rapport à certaines de ces fractures que nous vivons aujourd'hui. Après, la fracture géopolitique et guerrière que nous traversons n'est qu'une des fractures nombreuses, certaines desquelles sont analysées dans ce volume. Il y a, par exemple, une nouvelle ligne de fracture par rapport à la transition climatique.
Oui, ça, on va y venir.
Exactement. Il y a
une fracture technologique.
Ce qu'il y a de bien dans notre époque, c'est qu'on a le choix, chacun a le choix de son apocalypse, d'une certaine façon.
Vous nous direz laquelle vous préférez tout à l'heure. Un des slogans de la revue Le Grand Continent est « Le temps du livre dans le temps du tweet ». Et justement, dans ce livre qui fait le pari de l'intelligence, il s'agit de prendre de la hauteur par rapport aux polémiques de Twitter et des réseaux sociaux pour réfléchir à la dynamique des mouvements populistes, aux mouvements anti-écolo, aux conséquences des guerres en Ukraine et à Gaza, l'élection américaine, la révolution de l'intelligence artificielle. Mais le point de départ est cette réalité de l'année 2024, année folle du point de vue électoral. Pas moins de 4 milliards de personnes sont appelées aux urnes, c'est la moitié de l'humanité. Et pourtant, vous écrivez, ce qui frappe, ce n'est pas le caractère exceptionnel du climat électoral qui s'est installé sur la planète que sa confondante banalité, parce que selon vous, on est entré dans la campagne permanente. Qu'est-ce que ça change ?
Ça change que traditionnellement, dans les systèmes politiques, vous aviez une phase de campagne. La campagne elle-même, comme terme, dérive de la campagne militaire, donc d'un affrontement, d'une guerre, où les différents partis et les différentes forces s'affrontaient sans compromis. Et puis, la phase électorale se terminait et vous aviez la phase du gouvernement. Mmh. Alors, gouvernement, ça vient du grec et ça vient de gouverner un navire, de piloter un navire. Donc, c'est autre chose. Ce n'est pas une logique forcément d'affrontement permanent. C'est la recherche du compromis, c'est faire face à la réalité. Ce n'est pas un jeu à somme nulle, mais c'est, si possible, un jeu à somme positive. Alors, évidemment, ça n'a jamais été aussi net et aussi joli que ça. Il y a toujours eu des tensions très fortes, mais ce qu'on remarque, et je pense que c'est dû à plusieurs facteurs, et notamment à un nouvel écosystème de médias et
réseaux sociaux, chaînes, etc.,
on en arrive à une campagne permanente. Donc le climat de la campagne électorale ne se distingue au fond en rien du climat normal, et c'est cette logique d'affrontement, de polarisation, d'absence de compromis, de dénonciation permanente qui, dans un peu partout, hein, mm-hmm. parce que ce sont tous les pays du monde qui, au-delà de leurs différences, basculent dans cette nouvelle dimension, dans ce nouvel espace public numérique. Eh bien, nous sommes malheureusement nous basculons dans l'époque de la campagne permanente.
Julien Lauda à Montpellier, on peut dire que campagne permanente plus réseaux sociaux égale radicalisation des positions en présence dans les espaces publics.
Oui, vous savez, si vous avez une machine publicitaire gigantesque qui, à coup de milliards, ne fait que diviser, segmenter les publics pour pouvoir d'ailleurs leur vendre des choses. Enfin, c'est à l'origine plutôt un phénomène commercial. Mais pour ne faire autre chose que renforcer chacun dans ses préférences, dans ses préjugés et donc polarisé avec des messages de plus en plus extrêmes. Et si cet espace-là devient l'espace dans lequel se déplace de plus en plus le débat politique, parce que vous savez, tant que vous êtes ici à la radio, vous êtes à la télévision, vous êtes dans un meeting sur une place publique, vous êtes en France, dans une vieille démocratie... peut avoir ses défauts, mais il y a des règles qui règlent le débat et même des lois qui le règlent. Dès que le débat politique se déplace ailleurs et que les opinions se forment dans la dimension numérique, eh bien, vous êtes dans un état en faillite. C'est comme si vous étiez au Yémen ou en Somalie avec des seigneurs de la guerre numérique qui font la loi et au fond, très peu de possibilités d'avoir une discussion plus ou moins équilibrée.
Le cœur de cet ouvrage, ce sont donc les élections européennes qui ont lieu dans moins de 50 jours. On entend souvent les candidats dire que ces européennes de 2024 seront les plus importantes de l'histoire pour le continent européen, parce que la guerre en Ukraine, parce que l'élection américaine. C'est un slogan selon vous ou est-ce vrai? Elles sont cruciales, ces européennes 2024.
Ce sont des européennes cruciales, mais par contre, moi je ne suis pas catastrophiste, c'est-à-dire, on voit en effet des forces nationales populistes qui remontent, hein, elles avaient baissé à un moment et aujourd'hui elles reviennent en force dans la plupart des pays européens. Mais premièrement, je ne pense pas quand même qu'il y aura un changement de majorité trop important au Parlement européen. Il y aura peut-être la majorité actuelle sera renforcée par d'autres partis, mais ça ne va très probablement pas basculer. Donc on a encore une fenêtre d'opportunité de quelques années pour essayer de faire des choses. Et puis deuxièmement, ce qui me semble encore plus important, certains de ces partis nationaux populistes sont en train de changer. Si je regarde mon pays, Meloni est très très problématique sous beaucoup d'aspects. On aura peut-être l'occasion d'y venir. Mais par rapport à l'Europe et à l'euro, il y a 5 ans, elle voulait en sortir, hein, comme Salvini et comme beaucoup d'autres partis de l'extrême droite européenne. Aujourd'hui, elle s'adapte à la donne que, malgré tout, une large majorité de l'opinion publique en Italie, mais c'est le cas en France aussi, par rapport à il y a 5 ans, est quand même face au danger, face au Covid d'abord, et aujourd'hui surtout à la guerre en Ukraine, il y a une large majorité de l'opinion publique qui se dit que malgré tout, l'Europe, c'est quand même plutôt bien de l'avoir. Et donc, ils sont sur des positions qui, forcément, elles sont toujours hostiles à la construction en soi. Mais ça s'articule de façon différente. L'Europe ne va pas s'effondrer demain matin.
Et sur le plan intérieur, comment jugez-vous son bilan à Giorgia Meloni, au pouvoir depuis bientôt 1 an et demi? A-t-elle mis en place une véritable politique d'extrême droite ou c'est plus compliqué que ça?
C'est un peu plus compliqué parce qu'elle a un double langage. Donc, elle a compris ce que d'autres avant lui, comme avant elle, comme Berlusconi et Salvini n'avaient pas compris, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas aller chercher le clash ni avec l'Union européenne, ni aujourd'hui avec l'OTAN et la coalition contre l'Ukraine. Donc sur tout ce côté-là, politique étrangère, politique économique, elle est restée au fond très mainstream, hein, ou elle est devenue très mainstream, mais pour marquer son identité et sa différence, elle redouble d'efforts à l'intérieur sur tous les thèmes de société, de genre, d'immigration, d'intégration et culturelle, pour par contre là marquer une identité véritablement d'extrême droite et explicitement post-fasciste.
Alors, il y a quelque chose de très important dans ce livre, et on y est dès votre introduction. Vous analysez l'élan du mouvement national populiste qui surfe désormais sur le climato-scepticisme. Vous partez d'une anecdote sur les affiches de campagne de l'AFD, le parti d'extrême droite allemand. On trouve un seul mot, diesel. Pourquoi ce slogan, pourquoi cette affiche disent tout à vos yeux ?
Pour deux raisons, je pense. Il y a d'abord dans ce volume un article remarquable de Jean-Yves Dormagen
qui est l'ouverture du livre.
Qui est l'ouverture du livre et qui raconte malheureusement il y avait une différence sur le thème de la transition climatique entre les États-Unis et l'Europe jusqu'à récemment, c'est que aux États-Unis le thème était très polarisé politiquement. Donc il y a une différence de 70 points de pourcentage entre les démocrates et les républicains par rapport à pensez-vous qu'il y ait une transition climatique en cours et qu'il faut faire quelque chose. Alors que chez nous, ce n'était pas le cas. Hein, Dormagen parle d'une sorte de consensus mou. Oui. Il n'y avait pas de très grosse différence entre la gauche et la droite et même l'extrême droite sur ce sujet-là. Et là, c'est fini. Hein, donc, on voit qu'à tous les niveaux, malheureusement, le climat devient une partie de la guerre culturelle, identitaire qui est en cours. Et oui, moi je suis très frappé par ces slogans et par cette sorte de liste que j'ai dressée au début de mon introduction, où la liste, si vous faites une liste ça va de diesel à Noël, à l'hamburger, aux toilettes séparées pour hommes et pour femmes, aux blagues amusantes, aux costumes d'indiens et de cowboy. Ce sont toutes les choses les partis nationaux populistes reprochent aux élites d'enlever aux gens. Hein. Et c'est une liste très impressionnante. Et si vous faites rentrer le diesel et la viande et les barbecues dans cette liste, vous voyez le risque et la force d'un argument de ce type.
Juliano d'Ampoli, est-ce que les écologistes ont, selon vous, échoué à expliquer l'urgence du Green Deal et des mesures qui sont, vous le dites vous-même, désormais perçues comme punitives ?
Écoutez, je pense qu'il y a d'un côté, ce qui s'est produit, c'est que par rapport à l'élan sur le pacte vert, qui pourtant existait jusqu'il y a deux ans, il est vrai que l'urgence de la guerre en Ukraine, même si elle a porté quelques effets positifs, parce qu'on s'est quand même sévré du gaz russe, et d'une certaine façon, il y a une transition énergétique qui a été un peu accélérée par la guerre en Ukraine, mais c'est vrai que le niveau de mobilisation et d'urgence sur les thèmes de la transition climatique a un peu baissé. Ce n'est pas la faute des partis écologistes. Après, il y a ce qui est vrai, c'est que il y a une difficulté à essayer de donner une clé positive à la transition. Un autre papier remarquable dans le volume de Pierre Charbonnier parle d'une drôle de guerre climatique où, bon, la guerre est déclarée, mais il ne se passe pas grand-chose et on a beaucoup de difficultés à construire face à une coalition carbone et fossile qui est très forte, une coalition alternative.
Giuliano d'Ampoli, les normes écologiques n'expliquent pas la totalité de la poussée populiste partout en Europe. En France, le Rassemblement national est donné à plus de 30%. En Italie, on vient d'en parler, l'extrême droite est au pouvoir. Elle est en dynamique un peu partout en Europe. Comment expliquez-vous cette déferlante? Selon vous, quels en sont les ressorts?
Je pense qu'il y en a plusieurs. Le thème, effectivement, qui avait été très bien pointé par la campagne du Brexit à son époque, le thème général est une sensation de perte de contrôle. Et par rapport à ça, mobiliser une colère contre les élites dont la faute. Et c'est une vraie faute. Et il faut quand même s'interroger sur ça un peu aussi. Je pense que la faute des élites a été de devenir des élites politiques de tous bords, de la gauche comme de la droite traditionnelle, des facteurs de déstabilisation de la vie des gens. Alors que dans des temps de changement à tous les niveaux, il aurait fallu plutôt apporter des facteurs de stabilisation et plutôt rassurer, alors que les élites ont voulu être souvent de droite et de gauche, plutôt dans la disruption d'un côté et de l'autre. Et donc, cette sensation de perte de contrôle au niveau économique, au niveau culturel, social, etc., est quelque chose... Il y a des entrepreneurs politiques, des nationaux populistes, qui ont comblé un vide, qui se sont appropriés de ces thèmes-là et qui aujourd'hui ont le vent en poupe.
Et en France, comment analysez-vous la dynamique de Jordan Bardella? Que dit-elle, selon vous, de la société française?
Écoutez, malheureusement, il n'y a pas énormément de différence avec ce que on a connu ailleurs. Le niveau de défiance et de mécontentement par rapport aux élites politiques traditionnelles monte en France depuis très longtemps. Et ce qu'il y a de nouveau par rapport au passé, c'est que votre système de partis s'est complètement délité aussi. C'était la grande différence avec l'Italie. Là, en Italie, le système des partis a explosé au début des années 90, et à partir de ce moment-là, ça a donné la volatilité augmente. Donc tout se passe beaucoup plus rapidement. Chez vous, ce système a duré quand même plus longtemps, mais aujourd'hui, il a explosé et donc ça augmente la volatilité. Ça peut donner, en effet, des envolées beaucoup plus rapides que par le passé.
Giuliano d'Ampoli, face à ça, les pro-européens essayent de donner de la voix, vous le disiez, et c'était dans une interview que vous avez accordée au Point. Ne pas céder au catastrophisme, beaucoup critiquent l'Europe, mais de moins en moins de gens remettent en question leur appartenance à celle-ci, y compris au sein des partis populistes. Parmi les pro-européens, il y a dans le livre ce texte de l'écrivain espagnol Javier Cercas, qui se définit comme un dangereux européiste, favorable à davantage d'intégration européenne, à un véritable fédéralisme européen. Il affirme que l'UE est la seule utopie raisonnable que nous, Européens, ayons inventée. Cette foi-là dans l'Europe, cette défense de l'intégration européenne, ce fédéralisme n'est-il pas devenu rare, voire carrément inaudible aujourd'hui ?
Oui, c'est effectivement un argument très très minoritaire. Je ne pense pas que c'est avec cet argument forcément que nous allons gagner des élections et remobiliser un consensus autour de la construction européenne. Mais par contre, avoir un horizon de longue période qui aille dans ce sens, malgré tout, si on regarde le parcours de l'Europe depuis depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, on peut se dire qu'on est à la moitié du chemin. Donc, moi, personnellement, je n'ai aucune difficulté à prononcer le mot de fédéralisme, mais pour moi, c'est facile. Vous entendez mon accent et donc la vraie difficulté est d'aller bien au-delà de Cercas et de moi-même.
Cette semaine, Emmanuel Macron doit prononcer un discours sur l'Europe à la Sorbonne, près de 7 ans après un discours marquant de son premier mandat, où il définissait sa politique européenne. Attendez-vous quelque chose de ce discours jeudi? Emmanuel Macron peut-il relancer sa dynamique électorale, relancer le camp des pro-européens?
Écoutez, je pense qu'on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il a été effectivement plutôt cohérent au cours de ces années sur le terrain européen. Maintenant, il y a deux éléments. Je pense qu'il y a forcément cette mobilisation guerrière d'une certaine façon face à l'Ukraine et face au risque un peu ce retour, si vous voulez, à une vision un peu plus traditionnelle de la politique, parce que l'idée européenne était une très jolie idée, mais c'était que nous sortions du hard power, du militaire, et nous allions plutôt régler les relations entre les peuples et entre les pays par des accords, par des lois, des accords commerciaux, etc. Alors cette vision-là, elle peut paraître naïve aujourd'hui face au réarmement dont parlait Pieraski, et nous sommes forcés, nous aussi Européens, d'entrer très, très rapidement dans cette logique-là. Donc il y a tout ce volet-là, le réarmement, y compris du point de vue économique, de plus en plus de protectionnisme, essayer là aussi modifier un peu notre logiciel. Mais je crois qu'il y a malgré tout un élément d'exceptionnalité européenne et de notre modèle social et culturel qu'il faut pouvoir préserver, y compris dans la dimension numérique. Je m'excuse si j'insiste sur ça, mais quand chacun d'entre nous passe en moyenne 10 heures par jour en face d'un écran, il y a quelque chose qui bascule dans notre vie. Et d'autres pays ont décidé de réguler cette sphère-là à leur manière, donc la Chine, par exemple, de façon très autoritaire, les États-Unis avec un système de marché absolument débridé. Je pense que, par exemple, un style de vie, une approche européenne au numérique et à cette dimension dans laquelle nous passons de plus en plus de notre vie est quelque chose d'important.
On a été sidéré de voir que ce livre comprenait un article de Vladislav Surkov. Alors, je le précise aux auditeurs, Vladislav Surkov, c'est le spin doctor de Poutine qui a servi de modèle à votre livre Le Mage du Kremlin. Pourquoi avoir fait le choix de reproduire un article signé de sa main où il anticipe l'émergence prochaine d'un or global?
Écoutez, c'est un article très bizarre. Ce qu'il y a d'intéressant, je crois, aussi dans le Grand Continent, c'est que vous retrouverez dans ce volume des perspectives extraordinairement différentes l'une de l'autre, même des articles qui se contredisent
les uns les autres.
Mais ils sont tous intéressants d'une façon ou de l'autre, et le papier de Surkov est assez fou. Il part de... Il part de Vasco de Gama, qui est envoyé par le roi du Portugal chercher le prêtre Jean, qui serait une sorte de roi chrétien qui aiderait les Portugais et les Européens à combattre l'islam. Et seulement le prêtre Jean n'existait pas. Il était censé avoir un royaume au sud de l'Égypte, mais il n'existe pas. Et donc Surkov dit souvent la géopolitique est basée sur des hallucinations. Il y en a encore. Alors Surkov, par prudence, dit c'est plutôt les Européens et les Américains qui sont hallucinés aujourd'hui, mais il sous-tend quand même que c'est plutôt les Russes aussi qui sont en train d'avoir une hallucination géopolitique. Et il dit aussi, il y a un sud global qui se forme, et donc il y aura un moment un nord global qui va se former, ce sera l'Europe, la Russie et les États-Unis. Alors c'est complètement fou, hein, c'est... mais ça vaut la peine, je crois.
D'être lu.
Il a eu par contre des problèmes pour ça, il est sous enquête de la police de Moscou pour violation de la constitution russe.
Merci en tout cas, Giuliano D'Ampoli, d'avoir été au micro d'Inter ce matin. Je renvoie donc à ce livre passionnant, un collectif portrait d'un monde cassé, l'Europe dans l'année des grandes élections, publié chez Gallimard et qui sera en librairie après-demain. Merci encore.
Merci à vous.